VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Conakry, 14h à Yaoundé. Bienvenue à notre journal. On commence par l'actualité américaine. Le comité de l'ONU pour l'élimination de la discrimination raciale, organisme indépendant du Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme, a émis ce mercredi un premier avertissement formel à propos de la situation aux États-Unis. Une mesure utilisée pour signaler l'émergence d'un possible conflit intercommunautaire dans un pays qui a été prise 7 fois au cours de la dernière décennie, principalement contre des pays en proie à des conflits ethniques et religieux comme le Burundi, le Nigeria, l'Irak et la Côte d'Ivoire. Le comité a justifié le recours à ce premier avertissement à Washington en citant la prolifération de manifestations racistes aux États-Unis. Il a mentionné en particulier les récents troubles à Charlottesville en Virginie où une femme a été tuée après qu'un suprémaciste blanc a précipité son véhicule sur un groupe de manifestants antiracistes. Le comité a donc enjoint le gouvernement américain ainsi que les politiciens de haut niveau et les responsables publics de condamner sans équivoque et sans condition les discours de haine raciste. L'appel de l'organisme onusien intervient au lendemain de la visite du président américain Donald Trump à Phoenix dans l'État d'Arizona, où le chef de l'exécutif a défendu hier sa réaction aux incidents de Charlottesville. Le point avec Jean-Roger Bion.
Monsieur Trump a commencé son intervention par une répétition de ses précédentes déclarations critiquant les néo-nazis et les racistes du Ku Klux Klan après les violences meurtrières du 12 août dernier à Charlottesville en Virginie. Mais le président a omis les mots les plus controversés qu'il avait utilisés pour envoyer dos à dos tenants de la suprématie blanche et contre-manifestants. Donald Trump a également accusé les médias de ne pas se faire l'écho de ses commentaires, ajoutant qu'il est quelqu'un qui veut dire la vérité, une personne honnête. Les deux sénateurs républicains de l'Arizona, John McCain et Jeff Flake, qui ont eu plusieurs accrochages avec le président, n'ont pas participé au rassemblement et le président les a critiqués sans mentionner leur nom. La présence de Donald Trump à Phoenix a attiré des dizaines de milliers de ses partisans et de protestataires au centre-ville et les forces de sécurité se sont évertuées à éviter tout incident entre les deux côtés. La police a cependant usé de gaz lacrymogène après le discours contre des manifestants anti-Trump.
Afrique maintenant, au Cameroun, 4 membres d'un comité de vigilance ont été tués mardi soir lors d'un attentat suicide dans la localité d'Amchide, frontalière du Nigeria, dans l'extrême nord du pays. L'information et le bilan de l'attaque ont été confirmés à l'AFP par une source sécuritaire de la région, jointe depuis Yaoundé. Composé de civils qui livrent des renseignements aux forces gouvernementales pour lutter contre le groupe djihadiste nigérian Boko Haram, les comités de vigilance au Cameroun sont particulièrement ciblés par les djihadistes. Au Nigeria, l'UNICEF, l'Agence onusienne de protection des enfants, tire la sonnette d'alarme sur le recours croissant par Boko Haram à des enfants kamikazes, des filles pour la plupart, dans le nord-est du pays. Leur nombre a quadruplé par rapport à l'année dernière et Christophe Boulierac, porte-parole de l'UNICEF à Genève, plaide pour une réinsertion de ces enfants utilisés par les djihadistes.
Le retour à la vie civile de jeunes qui ont été dans des groupes armés est toujours compliqué psychologiquement, émotionnellement. Et il est clair que ce genre de pratique épouvantable qui est en pleine augmentation complique d'autant plus ce retour à la vie civile de par la stigmatisation, de par le rejet additionnel que ces enfants qui souhaitent revenir à la vie civile inspirent aux communautés. Il y a beaucoup de travail à faire, travailler avec les communautés et faire en sorte que les personnes et les agents qui ont de l'influence dans ces communautés du nord-est du Nigeria arrivent à persuader les communautés, les familles, les villages à donner de la place et à accueillir ces enfants. Il faut aussi évidemment que ces enfants, une fois que un climat de réconciliation a pu être renoué, bénéficient aussi de soutien économique. Jusqu'à présent, nous avons pu aider 3000 enfants et 1200 familles dans cette région du nord-est du Nigeria, justement avec ce travail communautaire de promotion de la réconciliation, de l'acceptation, de la tolérance par rapport au retour de ces enfants.
Christophe Boulierac, porte-parole de l'UNICEF à Genève. En RDC, réaction défavorable de l'opposition à la demande de la SADC, la Communauté de développement de l'Afrique australe, à la Commission électorale nationale congolaise, la CENI, de publier un calendrier révisé au motif qu'il est impossible d'organiser les élections dans le pays en décembre 2017. Pour les opposants congolais, la SADC a choisi de protéger le président Joseph Kabila, Idi Sango.
On ne comprend pas comment aujourd'hui la SADC peut choisir son camp et choisir un dictateur.
La réaction est de Martin Fayulu, un des sages du Rassemblement. La principale plateforme de l'opposition congolaise a fait une prise de position contre le communiqué final du 37e sommet de la SADC clôturé dimanche en Afrique du Sud. Dans ses communiqués, la SADC note qu'il ne serait peut-être pas possible de tenir des élections en décembre 2017 en raison d'un nombre de défis. La communauté de développement demande à la CENI de publier un calendrier électoral révisé. L'opposition oppose à la SADC l'accord du 31 décembre qui a décidé que M. Joseph Kabila devrait partir au plus tard le 31 décembre de cette année, dit Fayulu. L'opposition rappelle que les Nations Unies demandent dans une résolution le respect du dit accord. La SADC a également, lors de ses 37e sommets, approuvé la nomination d'un envoyé spécial en RDC avec pour mission d'y suivre les processus électoraux. Mais l'opposition congolaise prévient qu'elle n'acceptera pas un troisième dialogue pour repousser les élections.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Élection générale aujourd'hui en Angola. Le candidat du pouvoir, le candidat du parti au pouvoir, João Lourenço, est donné gagnant par la grande majorité des observateurs politiques. Il a promis en cas de victoire un miracle économique. Solange Nyamulisa.
Candidat du Mouvement populaire pour la libération de l'Angola, l'ex-ministre de la Défense est donné grand favori. Il devrait succéder à José Eduardo dos Santos, qui a décidé de prendre sa retraite après 38 ans de règne. L'Angola, depuis 3 ans, subit de plein fouet la chute de cours de l'or noir, ce qui a contribué à l'endettement, une inflation galopante et la chute de la monnaie locale. Monsieur Lourenço promet le miracle et dit compter sur les capitaux étrangers. Les deux principaux partis d'opposition, l'UNITA et la CASA CE, ont dénoncé les conditions inégales de la campagne électorale. Ses opposants accusent le MPLA au pouvoir d'avoir utilisé les moyens de l'État et de s'être accaparé les médias.
Au Togo, la population attend depuis 11 ans de voir la Constitution nationale dans sa mouture initiale. Pour y arriver, le 20 août 2006, un accord a été signé entre le pouvoir, les principaux partis politiques et la société civile. Mais les réformes n'ont toujours pas été opérées jusqu'à ce jour. Maître Tipki Achadam, du Parti national panafricaniste, ne cesse de fulminer contre la mauvaise volonté du pouvoir de Lomé.
C'est le refus évident de l'alternance. Ils veulent conserver le pouvoir à tout prix et éternellement. Et c'est pour cela qu'ils ne veulent pas faire de les réformes. Du constitutionnalisme, ils n'en veulent pas. C'est-à-dire un pouvoir limité dans le temps et dans les prérogatives. Ils n'en veulent pas. Ils sont réfractaires à cette idée. Il y a longtemps que moi, je suis revenu de mes illusions. Dialoguer et signer, et puis après, bon, on vous tourne en bourrique.
Maître Tipki Achadam, du Parti national panafricaniste au Togo. En Guinée, la chute d'une partie de la décharge de Dar es Salaam, un quartier de la banlieue de Conakry, a détruit des maisons et fait 5 morts ainsi que 10 blessés. La capitale guinéenne produit 1000 tonnes de déchets par jour et ne possède qu'un seul dépotoir public qui s'élève au-dessus des habitations. Les opérations de recherche pour retrouver d'éventuels survivants ont duré des heures. De Conakry, notre correspondant Zakaria Kamara.
Selon les témoins, plusieurs habitations sont ensevelies après la chute d'énormes quantités d'ordures.
Le matin, lorsque la pluie menaçait, oui, il y avait la machine qui travaillait en haut. Et vous voyez, donc c'est juste après ça, la machine, lorsqu'elle a dégagé, maintenant c'est ça qui a fait tout ces dégâts.
Après plusieurs heures de pluie, les habitants du quartier ont été alertés par un éboulement. Des amas d'ordures se sont déversés sur des maisons et des ramasseurs d'objets de rebut. Les victimes sont sous le choc. Pendant la nuit, nous avons entendu une machine qui repoussait les ordures. Ça a duré de 23h à 5h du matin. Ma maison est sous les ordures avec mes enfants et mes petits-enfants. Selon un bilan provisoire communiqué par le gouvernement guinéen, l'éboulement dans la décharge de Dar es Salaam a causé la mort de 5 personnes et fait 10 de blessés. Le président Alpha Condé, qui s'est rendu sur les lieux du drame, a laissé les opérations de secours se poursuivre. Conakry, Zakaria Kamara pour VOA Afrique.
Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.